Il est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, avec aujourd'hui des femmes qui ont eu des vies particulières et judiciaires.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine avec de vrais morceaux de Finistère dedans. Et c'est au féminin aujourd'hui, autour d'un livre documentaire que vient de publier une invitée que vous avez déjà pu découvrir sur notre antenne. Elle a déjà été l'auteur d'autres ouvrages, y compris des romans. Aujourd'hui, elle vient donc nous présenter Les Souliers Rouges, documentaire qu'elle vient de signer, qui est paru aux éditions Stéphane Batigne. C'est bien écrit, l'autrice est prof de lettres. Et elle aussi, elle est un peu conteuse sur les bords. Il le faut, car ce sont des histoires, des vraies histoires qu'elle nous raconte, des histoires de femmes bretonnes qui ont marqué la chronique judiciaire du passé. Une vingaine de portraits courts, certains plus longs, des femmes qui sont connues, d'autres totalement méconnues. Toutes ont eu affaire à la justice à peu près. Pour certaines, ce fut après leur mort. Pour d'autres, ce fut un arrêt de mort en guise de verdict. Et d'autres ont officié, on veut dire, au tribunal. Des histoires individuelles, mais qui bien sûr sont aussi très éclairantes quant à l'histoire sociale, politique, économique des femmes. Notre invitée, vous la connaissez donc peut-être, c'est Hélène Duguezou, du nom du village des Mondaris où elle vit. Bonjour Hélène.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de France Transistor. Donc, je suis très contente d'être invitée ici à ce micro.
Et on est très content de vous recevoir. Alors bah déjà la question un peu bête, mais je suis sûre qu'on pourrait faire une heure d'émission, c'est pourquoi ce livre ?
Alors je suis très active sur les réseaux sociaux et je publie depuis déjà une petite quinzaine d'années des portraits de femmes que j'accompagnais de recettes de cuisine parce que je tiens une maison d'hôtes, chambre d'hôtes donc dans les Monts d'Arrée. Et je racontais ces histoires de femmes, je me suis un petit peu posé cette contrainte d'écrire plutôt sur les femmes, parce que les hommes, ils n'ont pas besoin de moi, ils sont suffisamment éclairés comme ça. Et parce que en discutant avec les gens des Monts d'Arrée, en discutant avec mes hôtes, en discutant avec plein de gens, on s'est rendu compte tous ensemble qu'il y avait des tas de personnes, des tas de profils, des tas de portraits qu'on ne connaissait pas tellement, dont on avait parfois beaucoup entendu parler, mais c'était de l'ordre de la légende. Et puis, ça m'a intéressée. Je me suis donc proposé ces contraintes femmes, Bretagne, et puis c'était parti. Et je me suis retrouvée avec environ, là, aujourd'hui, 400 procès. 400.
Donc c'était quand même toujours de la chronique judiciaire, enfin autour d'histoires judiciaires ou pas seulement ?
Alors, pas seulement. Ça a commencé avec quelque chose qui s'est passé pas loin de du village dans lequel je vis, évidemment. Là, ça m'a intéressée, j'ai creusé. Et puis petit à petit, en fait, j'ai un petit peu comme un caillou qu'on laisserait tomber qui fait des petits cercles. Ben, je suis allée voir un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Mais toujours dans la Bretagne historique.
Oui, et c'est un peu comme la généalogie. Hein. Quand on tire un fil, voilà. On n'en finit plus.
Hein. Bah exactement.
Et alors là, ce livre en particulier, d'ailleurs, on va expliquer son titre, il s'appelle Les Souliers Rouges, parce qu'il s'ouvre avec un... Alors moi, je croyais que c'était une gouerse, mais en fait, ce n'est pas une gouerse, c'est un conte. Un petit mot de ce conte, Hélène ?
Alors, je suis intéressée par les contes en tant qu'enseignante en lettres. J'ai beaucoup fait de recherches autour des contes, de la littérature orale et de la littérature de jeunesse. Et ce conte-là, j'en avais entendu parler quand j'étais toute petite. C'est un conte qui est tout à fait étrange.
Ah oui,
il est vraiment... Alors, il a plein de particularités. D'abord, il est très, très curieux. C'est plus un conte philosophique, finalement, qu'un conte merveilleux, même s'il y a une fée dans l'histoire. Et ce conte-là, il est dérangeant et il est court.
Il est en breton au départ ou...
Alors, et on le trouve en breton, on le trouve en gallo également. On le trouve aussi sous d'autres formes dans d'autres pays européens. Mais cette version du conte que ma grand-mère me racontait quand j'étais petite m'a toujours glacée. Alors ça tombe bien avec le temps qu'il fait. C'est un conte qui est très court. C'est une histoire d'une famille qui vit dans la forêt. Ils sont très pauvres, évidemment, comme beaucoup de familles bretonnes. Donc c'est un conte très ancien, hein. Et la maman envoie les enfants chercher des sabots, des fagots. Pourquoi ? Parce que il faut cuire la soupe. Hein, et pour les motiver, elle leur dit les souliers rouges que j'ai et qui vous intéressent vraiment, vous êtes très admiratif et vous voudriez les posséder. Et celui qui ramène le plus de fagots le plus rapidement, je le lui donnerai. Et la petite fille part en courant, le petit garçon part en courant. Et le petit garçon, il attache sa sœur dans la forêt. Il fait plein de fagots, il rentre en vitesse, il a détaché sa sœur avant, et quand sa sœur rentre, évidemment...
Elle n'est pas la première, sûr.
Et voilà. Et donc, la maman fait des tas de choses qui... Voilà, elle cuit le petit garçon, donc on a...
Oui, c'est ça. Non, c'est quand même ça qui est choquant, c'est qu'en fait, elle cuit... On ne sait pas tellement pourquoi elle cuit le petit garçon. Est-ce que c'est déjà par féminisme, parce qu'elle sait ce qu'il a fait à sa sœur?
Alors, c'est une figure maternelle, et en même temps, c'est la figure de maternelle du monstre, c'est la sorcière. Donc, la petite fille est amenée à amener la soupe dans laquelle finalement cuit son petit frère. Elle n'est pas trop au courant, elle n'a pas trop compris. Elle amène la soupe à son père qui est dans la forêt. Et il y a une fée qui intervient et qui lui dit « Tu ramasseras tous les os que ton père va jeter aux quatre coins de son repas. » Déjà, il n'est pas très propre, le papa. « Donc, tu récupères les os, tu me les donnes et je referai ton petit frère. » Et la fée refait le petit frère.
Et ça se termine bien, mais quand même, on est passé par des horreurs. Quoi.
C'est effrayant, quoi. C'est vraiment un conte effrayant et très, très atypique. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce conte, c'est de dire qu'on a plein de figures féminines. On a à la fois la femme, on a la petite fille, on a les hommes dans l'histoire, le petit garçon comme le papa, on n'en parle pas tellement.
Le petit garçon, il n'a pas le beau rôle en plus, vu qu'il attache sa sœur à un arbre.
Voilà, c'est ça. Il est bien puni quand même.
Oui, exactement.
Et donc, je me suis dit, on a la représentation de ce à quoi les femmes sont confrontées depuis la nuit des temps, et encore même aujourd'hui. Soit elles ont des souliers trop petits, et elles se font avoir dans l'histoire, des souliers rouges, soit elles ont des souliers comme la petite sœur, soit elles ont des souliers un peu grands, et ce sont des monstres, des ogresses, des sorcières, et elles ont des pouvoirs qui font peur au reste de la société, majoritairement masculine.
Et le rouge, c'est évidemment aussi pour le sang, parce que la plupart des histoires du livre, les souliers rouges, sont quand même des histoires où il y a des morts, on va dire.
Disons que c'est comme dans un polar ou comme dans un petit fait divers qu'on lit dans le Télégramme ou dans l'Ouest France. Ça commence mal pour quelqu'un à un moment, ça c'est sûr.
Et ça donne des histoires qui n'ont pas toutes la même longueur d'ailleurs. Ça dépend des femmes qui ont été... Alors comment elles ont été choisies, les femmes? Justement, il n'y en a qu'une vingtaine, il n'y en a pas 400.
Alors moi, j'avais vraiment le choix de choisir celles qui sont... et d'une connue pour revisiter un petit peu leur profil, parce qu'on croit connaître ou on a entendu parler d'eux sans avoir vraiment trop les détails, d'une part, et d'autre part, je voulais qu'on parle des autres, de celles dont on n'a jamais entendu parler. J'ai trouvé des centaines de femmes, notamment victimes, dont on n'a jamais parlé. Donc il fallait en récupérer quelques-unes dans toute cette masse. Et puis il y a toutes celles parce qu'il a fallu quand même ranger ça dans des chapitres pour donner un petit peu de cohérence à tout ça. Donc celles qui ont des souliers qui sont trop petits, les souliers rouges trop petits. Donc toutes les victimes, et Dieu sait qu'il y en a. Tous les jours, il y en a toujours eu, et aujourd'hui, on ouvre la presse quotidienne, on écoute la radio, la télévision, on est... Surtout en ce moment, avec l'affaire de la petite Liana, par exemple.
Oui, on entend toujours des féminicides.
C'est tous les jours, et il y en a tous les jours, et il y en a plusieurs tous les jours. Oui. Il y a même un décompte qui est fait.
D'ailleurs, on dit qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours, et en fait, ce chiffre en France ne baisse pas. C'est ça qui est terrible, alors que d'autres pays ont réussi à le baisser, comme l'Espagne. Bref, parenthèse. Voilà, donc ça, c'est les victimes. Ça, c'est la première partie du livre.
Voilà.
Ensuite, on a les ogresses.
Les criminels, les ogresses, tout à fait. Et donc là, on a la fameuse... Alors, quand j'en parle aux gens maintenant, puisque ça fait le livre est sorti il y a déjà quelques semaines, quand j'en parle aux gens, je pensais que les gens me sortiraient d'abord Hélène Jégado.
Elle est dans le livre, il faut préciser.
Et en fait, c'est pas celle-là dont on parle spontanément. On me parle spontanément pour le moment, enfin je n'ai promené les souliers rouges qu'en Finistère, on me parle spontanément de Marion Dufaouette.
Oui, alors ça ne m'étonne pas parce qu'en fait comme on est dans le Finistère, enfin on est à l'ouest de la Bretagne, c'est peut-être pour ça, c'est vrai qu'Hélène Jégado finalement elle a pas mal officié autour de Rennes ou voire de Nantes, non je crois
Hélène Jégado c'est Morbihan, elle a épousé le Morbihan et ensuite elle a fini sa triste carrière à Rennes.
Oui c'est ça, et qui est vraiment, alors Hélène Jégado c'est une empoisonneuse, une tueuse en série. qui est quand même très connue.
C'est la première tueuse en série française de tous les temps.
Une première dont on peut se vanter.
Tueuse et tueur. Hein. C'est la première identifiée.
Ah oui.
On ne sait pas s'il y a eu une centaine ou une cinquantaine de morts. On ne sait pas trop.
Il y en a peut-être eu d'autres. Enfin, je ne sais pas. Barbe Bleue, c'est quand même plus ancien. Il était identifié comme un tueur en série, quand même. Gilles de Rais.
Oui, mais on n'a pas le compte. Alors que
Il n'a pas été jugé comme tel, en fait.
Et puis, Hélène, c'était normal.
Oui, à l'époque, de toute façon, c'était un seigneur, il faisait ce qu'il voulait, voilà, hein, c'est vrai.
Puis en plus, il ne tuait que ses femmes, donc ses femmes, il y a une propriété, donc
Voilà.
Alors que Hélène Jégado, elle a profité aussi du fait que ça se passe au 19e siècle, elle a été exécutée en 1852, et c'est vrai que le fait que ça se passe au 19e siècle, il y a l'essor de la presse qui a fait qu'on on en a un peu parlé, mais pas tant que ça, parce que parallèlement à ça, il y avait des gros problèmes politiques au niveau de la France. Donc, on en a beaucoup parlé, mais pas tant que ça. Et puis, au XXe siècle, on s'est dit, mais qui c'est cette Jégado ?
Ouais, elle a ressurgi, c'est marrant.
Voilà, elle a ressurgi. Donc, de temps en temps, on a besoin de monstres pour montrer que les femmes sont, ne sont pas si innocentes que ça. C'est un petit peu l'image de ces femmes-là. La Jégado, Marion Dufaouët. D'ailleurs, on dit la Jégado, on dit Marion Dufaouët, la Charlézaine.
Alors, Marion Dufaouët, pour le coup, elle a peut-être une meilleure image parce qu'elle a un côté Robin des Bois, c'est-à-dire qu'elle détroussait les riches et puis pas les riches du coin parce qu'elle était maligne, elle s'en prenait aux riches de passage et elle s'en prenait pas aux pauvres, en tout cas en tant que brigande. Quoi.
Et ce qui est amusant, c'est de constater qu'on a une Marion Dufaouët du Sud, mais on a aussi l'équivalent du Nord et qui est plus ancienne encore avec la Charlézaine. Et la Charlézaine, j'en ai entendu parler, en fait, parce que je n'avais jamais vraiment fait attention et on parlait de Gouers tout à l'heure, les Gouers sont un véhicule formidable pour permettre justement qu'arrivent jusqu'à nous toutes ces histoires-là, même si de l'histoire d'origine, il reste sans doute plus grand-chose et plein de choses qui se sont agglomérées, mais c'est tout l'intérêt des histoires. Moi, je ne suis pas historienne. Je suis là pour raconter des histoires, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, d'ailleurs, toutes les femmes portraiturées, ou je ne sais pas, ce n'est pas très joli comme mot, dans le livre Les Souliers Rouges dresse le portrait, j'ai dit que c'était des histoires vraies, à part une. Trifine, pardon.
Voilà. C'est de l'ordre de la légende, c'est comme la Charlézaine, finalement.
Et donc, la Charlézaine, là, il se trouve que je n'ai pas lu cette histoire, c'était quoi
Alors, la Charlézaine, elle est décrite dans une Gouers qui a été rapportée à Anatole Lebras par une de ses deux. Il avait deux pourvoyeuses principales de contes et de Gouers. C'était donc Marie-Vonne Vraz. C'était une femme incroyable. Déjà, rien qu'elle, il faudrait un livre sur elle. Et cette femme-là, donc, lui avait raconté cette Gouers, qui est empreinte de plein de choses. Donc, c'est en Trégor. C'est une sorcière. Donc, elle est rousse. Elle a les yeux verts. Et ça, la Gouers l'a décrit. Donc, clairement, on est dans la sorcière. Elle est très pauvre. C'est toujours pareil dans ces histoires-là. Si on a une trajectoire aussi flamboyante, c'est qu'au départ...
C'est qu'on est rousse, déjà.
Voilà, c'est qu'on est rousse et qu'on est pané avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, cette femme-là, elle est abusée par le seigneur du coin. Ça, c'est un classique
aussi.
Voilà. Et elle se dit, mais bon sang de bonsoir, je ne vais pas me laisser faire. Et c'est en fait le petit grain de sable qui fait que ces femmes-là deviennent des monstres au regard de la société, alors qu'en fait, tout simplement...
Elles se sont défendues, voilà. Mais c'est comme les sorcières, on leur reprochait d'être indépendantes, d'avoir des savoirs que tout le monde ne partageait pas.
Tout à fait.
On n'aimait pas trop les femmes qui débordaient.
Eh bien non, et la Charlézaine, elle déborde de partout, parce que elle, comme la Marion Dufaouët, alors elle est installée au Grand Rocher, qui est un promontoire qui se trouve sur la baie de Saint-Michel-en-Grève, Plestin-les-Grèves. Elle voit à perte de vue le monde passer, donc à marée basse, c'était là que passaient tous les gens qui allaient, notamment les nobles et les marchands qui allaient de Lannion à Morlaix. Et quand elle les voyait arriver, elle sifflait dans un petit sifflet d'argent ou de vermeil, enfin ça dépend des versions. Et elle avait entre 300 et 400 affidés qui déboulaient, des bandits armés jusqu'aux dents, qui, armés de leur peine base, allaient réduire en bouillie les malheureux, récupérer toute leur richesse. Et ensuite, nuitamment, on dit que la Charlézaine allait déposer dans les familles, dans les maisons des familles endormies, des familles pauvres, un petit peu de richesse pour que, voilà, donc, elle achetait la paix sociale comme ça. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, non. Voilà, donc, voilà. Et donc, cette femme-là, finalement, elle a été, paraît-il, arrêtée, elle a été exécutée, mais sa fille, Rousse, aux yeux verts, aurait pris le relais. Et on raconte qu'il y a plus de corps enfouis dans cette baie qu'il n'y a de grains de sable.
Mmh, d'accord. Et Tryphine ?
Alors, Tryphine, c'est un cas qui est devenu légendaire. Donc, très certainement, il y a eu quelque part des barbes bleues, sans doute plusieurs. Et Tryphine, elle est une de ces histoires, elle intervient dans une de ces histoires de barbe bleue qu'on retrouve partout, mais qu'on retrouve même très anciennement. Barbe bleue, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il assassine ses femmes au fur et à mesure qu'elle en fait, le conte dit qu'il assassine ses femmes quand elles ouvrent une porte, mais en fait, quand elles sont enceintes.
Oui, c'est ça.
Et en fait, ça ressemble quand même bien à certains contes traditionnels, voire même à quelques mythes, comme par exemple Cronos qui mange ses enfants. Donc cette
petite... ou la maman qui mange son petit garçon, enfin qui le met
voilà,
dans la marmite.
C'est ça, donc
ça, on mange ses enfants très régulièrement finalement.
Mais oui,
c'est d'une banalité.
Ben voilà. Et puis c'est tendre et tout.
Mais c'est vrai. C'est meilleur.
Manger un vieillard de 90 ans, ça a peut-être moins d'intérêt aussi. Donc ces histoires-là, en fait, elles sont sans doute très très ancrées dans la société. Et puis il suffit d'un fait divers auprès d'un malheureux noble qui réussit pas à faire ce qu'il veut. Et puis le comte s'emballe. Et pour Tryphine, bah, elle épouse un comte vraiment très 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 sanglant qui a déjà par le passé tué ses femmes. Et puis finalement, bah, elle est assassinée également. Mais il y a plusieurs versions du comte. Dans une version, elle s'en sort. Dans l'autre, c'est son fils qui s'en sort. Enfin, il y a mille versions. Et donc moi, j'en propose une. Parce que ce que j'aime bien faire dans les histoires comme ça, c'est un petit peu comme on faisait autrefois avec les chaussettes, on les ravaude. Ben voilà, moi je répare un petit peu les contes et les histoires.
Et quand les histoires sont très documentées, c'est quoi quelles ont été vos sources, Hélène Duguesbeau ?
Alors, les sources, elles sont très compliquées à trouver, en tout cas des sources qui soient exactes, antérieurement à la Révolution. Parce que, bah, évidemment, il y a moins de documents, mais il y avait déjà une presse à scandale qui s'appelait Les Canards, dont on a des traces, et d'où, moi j'entendais quand j'étais petite, mes grands-parents qui disaient qu'ils lisaient Le Canard. Voilà, ça date, le premier canard attesté date de 1488, donc ça date pas d'hier.
C'est les journaux de faits divers,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'était des feuilles volantes de faits divers.
Okay.
Et on retrouve les feuilles volantes de faits divers également dans les guerres, qui souvent ont été... Donc ça, ce sont des choses qu'on retrouve en amont. On a des sources qui sont tout à fait... Alors c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire des recherches, tout comme on parlait de généalogie tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile de faire des recherches aujourd'hui dans la mesure où on a un accès à des archives qui sont numérisées. Ce qui, il y a 15, 20, 30 ans, n'était pas vrai. Donc aujourd'hui, n'importe qui avec un ordinateur et la fibre, tant qu'à faire, peut faire des recherches. Après, c'est très long.
Dans les chroniques, enfin, dans les procès-verbaux de justice, c'est ça, notamment.
Alors, les procès-verbaux de justice, on a aussi les feuilles volantes avec les guerres qui sont très souvent accessibles pour peu qu'on soit bretonnant ou qu'on ait des amis bretonnants, comme c'est mon cas. On trouve ça sur différents sites. On trouve aussi sur gallica.fr, qui est le site de la
BNF, de la Bibliothèque nationale de France.
Oui. Et puis sur un site breton de la région Bretagne, donc on trouve la presse des années précédentes et des siècles précédents. Donc tout ça, plus les textes qui sont publiés par des historiens d'aujourd'hui ou d'hier, ben voilà, avec tout ça, on sort, on synthétise, et puis voilà, c'est comme ça un petit peu que j'ai fonctionné.
Et alors dans le livre, on n'a pas parlé de la dernière partie, parce qu'il y a quand même, alors c'est une dernière partie un peu hybride, mais il y a trois femmes qui ne sont donc ni des criminels, ni des victimes, qui sont assez extraordinaires. Donc il y a une avocate, si on veut, en tout cas de son mari. Il y a une soldate, alors bon voilà, on n'est plus dans la chronique judiciaire exactement. Enfin, elle s'est vraiment battue, elle a vraiment fait la guerre, cette dame.
Alors c'est trois profils qui sont absolument incroyables, et je trouvais dommage de ne pas les insérer, parce que quelque part quand même, elles ont un lien avec la question de justice. Alors je les aime toutes, les victimes, les criminels, mais ces trois-là sont formidables, quoi. D'abord parce que ce sont des histoires qui mettent en avant des Bretonnes, par exemple, Marie-Victoire de Lambilly, qui est la première femme à plaider et qui a été la coqueluche du tout Paris dans le
pour sauver la tête de son mari qui est accusé d'être traître. Enfin, c'est pendant la révolution. Il est accusé de, comme il a émigré, c'est un noble qui a émigré. Voilà.
Il s'était courageusement carapaté en Angleterre.
Et elle était restée.
Et elle était restée avec ses enfants et elle avait été emprisonnée et en plus elle le défend. Alors là,
elle est bien gentille.
Une sainte femme, voilà. Ouais. Et sinon, celle que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment incroyable, qui explose tous les scores, c'est la Marguerite ou Henri le Pestour, puisque c'est quelque part une...
C'est une transe.
C'est une transe.
Elle est redevenue femme. Enfin, c'est compliqué parce qu'elle était femme. Elle est née femme. Voilà. Elle est devenue... Elle a vécu comme un homme pendant combien d'années
Elle est revenue. Elle avait une trentaine, quarantaine d'années. Donc, ça n'a pas duré trop longtemps non plus. Mais elle a eu le temps quand même de faire pas mal de montrer la pleine mesure de ses talents.
C'est ça.
Voilà.
Et elle est redevenue à la fin de sa vie. Elle redevient femme. Enfin, c'est même pas la fin de sa vie parce qu'elle a, elle a eu des enfants. Enfin,
voilà, c'est ça. Elle est née à Cancale. Donc dans une famille pauvre avec la mère qui meurt, donc c'est toujours la même histoire. Et puis elle voit que son frère est privilégié et que elle est cantonnée à la cuisine.
C'est une femme, la pauvre. Voilà.
Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses clics et ses claques, elle prend les vêtements de son frère et elle part. Et elle part elle se grime en homme, enfin.
Elle se coupe les cheveux déjà. Voilà. Elle devient Henri.
Je ne sais pas si elle se coupe les cheveux parce qu'à l'époque tout le monde avait les cheveux longs, donc bon, c'est pas.
Oui, peut-être. C'est vrai.
Et elle part. Elle va chez un prêtre dans un premier temps. Et puis ensuite, elle part soldate. Elle va faire des grandes guerres. Elle trouve que finalement tuer et torturer, ça lui convient pas mal. Et elle devient bourreau officiel de la ville de Lyon, et c'est la seule femme à avoir été bourreau de toute l'histoire de France.
Et elle a quand même exécuté 3 personnes.
Voilà.
Et sinon, elle torturait.
Elle torturait bien, tout le monde était content. C'était l'employée du mois, tous les ans.
Et en fait, c'est quand on a découvert que c'était une femme qu'elle a été renvoyée, en fait.
Disons que là, ça l'affichait mal, parce que on s'est rendu compte que cette femme-là qui était... cet homme-là qui était une femme avait berné tout le monde, et que tout le monde était tombé dans le panneau. Donc, en fait, la poussière a été glissée sous le tapis. On lui a offert la possibilité de se marier avec un monsieur. La morale était sauve. Et ensuite, on lui a dit, retour à Cancale.
Voilà. Et discrétion.
Voilà.
Donc, c'est vrai que ce qu'on comprend, en fait, à travers ce qu'on vient de se dire, c'est que ce livre, l'intérêt du fait divers, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est évidemment ce que ça dit de la société, là, en particulier de la condition des femmes. Enfin, vraiment. Donc, il y a évidemment tout le temps des histoires de filles mères. Il y en a plusieurs dans le livre.
Oui.
Donc, vraiment, avoir un enfant hors mariage, il n'en est pas question. Enfin, ça se termine vraiment mal, en général. Et puis, il y a aussi, alors ça, c'est pas forcément propre aux femmes, mais une certaine vision de la santé mentale aussi, de ce qu'est
voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question à chaque fois, mais d'ailleurs, à chaque fait divers qu'on découvre aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Dans sa tête,
Qui s'est passé dans sa tête ? Qu'est-ce qui a fait que c'est l'alien, c'est l'autre, hein, l'autre qu'on ne comprend pas ? Ici, il y a plusieurs portraits qui sont terrifiants, mais notamment, nous ici, dans la région de Brestoise, on a la Marie-Françoise Bougaran,
voilà, je pensais à elle, c'est ça.
De Plabennec, qui a une histoire mais effrayante. Mais c'est moins ce qu'elle a fait, parce que clairement, elle avait des problèmes psy gravissimes, c'est moins ça que ce qu'elle devient et ce qu'on lui impose. Parce que c'est une enfant, elle avait une quinzaine d'années, qui tue 3 enfants, 3 petits, dans des circonstances qui sont épouvantables, vraiment, vraiment épouvantables. Donc elle est excuse de minorité, donc ça se passe en 1866, excuse de minorité, finalement elle est condamnée quand même, mais pas elle n'est pas exécutée, et elle est emprisonnée, et après, arrivée à la prison de Rennes, quelque part on lui propose, soit elle reste emprisonnée toute sa vie, elle a à peine 15-20 ans, soit on la libère, mais on la libère sur les colonies guyanaises. Parce que l'idée, c'était de peupler ces colonies françaises, et de préférence...
Donc on a Bering du Sud, voilà.
Et de peupler ces colonies avec des petits blancs.
Donc on envoyait des femmes comme ça de
voilà
des crimes, enfin des reprises de justice comme on dirait.
Voilà.
Et pour se faire engrosser parce qu'enfin en fait elles avaient pas le choix. Elles tombaient sur un homme qui voulait bien qui cherchait une femme et puis voilà.
Elles étaient pseudo libérées. Ensuite donc cette fameuse Marie-Françoise, elle quitte Rennes. Donc elle était de Plabennec, elle quitte Rennes. Elle se retrouve à Brest, elle voit la mer pour la première fois de sa vie, elle traverse l'océan Atlantique, elle arrive à Saint-Laurent-du-Maroni et là ce sont des religieuses. Donc c'est un ordre religieux qui récupère ces femmes-là, en tout cas les survivantes, qui les retapent et ensuite il y a un marché
aux esclaves, ouais, c'est ça,
qui est organisé et les bagnards qui étaient libérés mais qui n'avaient pas le droit de revenir en métropole, on leur donne des femmes, on leur vend peut-être pas, mais on leur donne des femmes. Je ne suis pas persuadée que ces femmes-là, on leur ait demandé leur avis. Et il se trouve que cette jeune fille qui avait une vingtaine d'années, on l'a fait épouser à un monsieur qui était là pour deux féminicides.
Déjà.
Voilà.
Ouais.
Donc,
c'était pas de bon augure.
Et quelques mois après, Marie-Françoise Bougaran meurt.
On ne sait pas de quoi, en fait, évidemment. C'est déjà assez intéressant qu'on ait pu garder une trace d'elle. Donc, et elle, clairement, on pense qu'elle avait quoi ? Une schizophrénie ? Peut-être, si on avait un diagnostic aujourd'hui, elle avait de toute façon un problème psychique. Quoi.
Oui, elle était très, très gravement malade. Et sans doute, elle avait beaucoup, elle témoigne avoir beaucoup de douleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait parler peut-être d'endométriose
aussi.
Plus un dérangement, et peut-être à cause de ça, elle souffrait peut-être énormément, sans comprendre ce qui lui arrivait. Enfin bon, ça n'excuse pas, mais ça permet peut-être de comprendre. Et c'est ça que j'invite les lecteurs à faire, c'est pas à juger, de toute façon c'est derrière nous, mais à essayer de comprendre, avoir un petit peu d'empathie. Enfin moi, toutes ces femmes-là, même les plus monstrueuses d'entre elles, je les aime beaucoup.
Oui, c'est ça. Ouais. Il faut avoir une tendresse pour ces personnages, comme on
dit. Oui.
Même si ce ne sont pas forcément des personnages de fiction.
Je crois qu'elles n'ont pas eu beaucoup de choix.
Ouais,
de toute façon, même celles qui ont tapé dans les gamelles, elles n'avaient pas tellement de choix.
C'est ça. Est-ce qu'il y a des actualités autour du livre, des dédicaces à suivre, causeries, conférences
Alors, il y a une causerie autour notamment des meurtrières des Monts d'Arrée et des victimes des Monts d'Arrée, donc le vendredi 3 juillet à 18h à la médiathèque de Cizun. Sinon, je suis à Dialogue Morlaix également le samedi 11 juillet toute la journée. Et puis ensuite, je commence un cycle de salons du livre policier avec L'Assassin habite dans le 29 et par exemple le 13 juillet à Guisseny. Et puis, Marne, Névée, Château-Neuf-du-Fou, enfin voilà.
Oui,
tout le Finistère.
Oui, c'est ça, c'est un livre qui est intemporel. Il pourra durer un certain temps.
Voilà.
Merci beaucoup Hélène Duguezou qui est autrice des Souliers Rouges, édition Stéphane Batigne. C'est la fin de ce LEM. Merci, au revoir. On pourra le réécouter bien sûr sur le site internet de la radio et on trouvera aussi les autres émissions avec Hélène. Au revoir.